Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline.
Hello, hello, ici Pauline Léniaud et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Dans le Gratin, mon job, vous le savez maintenant, c'est de décortiquer avec vous les clés du succès de mes invités, que ce soit leur routine de vie, leur philosophie, leur pratique sportive ou alimentaire, leur lecture et de manière générale, la façon dont ces personnalités brillantes font des choix et prennent des décisions. J'ai forcément, je dois vous l'avouer, comme nous tous, des préjugés. Arrive de faire des raccourcis, de penser en stéréotypes, souvent même sans m'en rendre compte. Et depuis quelques mois, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et d'aller contre cette tendance en rencontrant des personnalités, toujours aussi inspirantes, je vous rassure, mais dans des domaines que je connais moins, sur lesquels on peut voir émerger des discours tout faits, souvent faux. Pour espérer ne pas être jugé, j'en suis convaincue, il faut déjà se remettre en cause et arrêter de juger les autres, un travail que je tâche de faire au quotidien. J'étais donc vraiment heureuse de rencontrer Henri Tran, alias l'un des deux cofondateurs de la chaîne YouTube Le Rire Jaune. Pourquoi, vous allez me dire ? Eh bien parce que Henri est YouTuber donc, mais qu'il bat complètement en brèche l'image simpliste qu'on peut avoir de ce métier. Si vous voulez contacter Henri, rien de plus simple, il a fait la folie de nous laisser son mail, et ceux qui veulent l'avoir en conférence d'ailleurs pourront s'en servir pour le contacter. Donc c'est Henri Jaune, donc comme le prénom Henri mais directement Rire Jaune après, @gmail.com, que je vous mets dans les notes du podcast, également sur le site du Gratin. Et vous le retrouverez également sur sa chaîne YouTube, Le Rire Jaune, avec son frère Kevin, mais aussi via son compte Instagram personnel, qui est aussi Henri Jaune. Alors pour continuer mon introduction et vous situer un peu plus le personnage, je vous lis un petit passage de la page Wikipédia qui concerne le Rire Jaune. Le duo de Rire Jaune est donc composé de Kevin et de son frère Henri. Kevin a effectué sa scolarité au lycée Louis-le-Grand, puis au lycée Saint-Louis. Il a obtenu un diplôme d'ingénieur de Télécom Sud Paris en 2016. Henri a intégré l'ESSEC en juillet 2017 après avoir étudié en classe préparatoire à Intégrale. La première vidéo du Rire Jaune est parue le 26 novembre 2012 sur la plateforme YouTube avec comme slogan « Parce qu'un Asiat qui n'utilise pas l'accent peut quand même vous faire rire ». La chaîne compte plus de 4,5 millions d'abonnés en septembre 2018, ce qui en fait la 8e plus grande chaîne YouTube française en termes d'abonnés. Avec Henri, on a parlé de son enfance, on a parlé de sport, du processus créatif du Rire Jaune qui, je peux vous l'assurer, est assez impressionnant et force le respect. On a aussi discuté des valeurs qu'il essaie de diffuser au travers de cette chaîne humoristique, de la gestion de la célébrité, d'influence marketing ou encore de livres à lire. Au final, ce qui m'a impressionnée, c'est qu'à à peine 23 ans, malgré son succès absolument hors norme, Henri est étonnant de maturité et de sagesse. Fan de taekwondo, il en applique les valeurs au jour le jour. Respect, modestie, intégrité. On est loin de l'image d'une starlette capricieuse, je peux vous l'assurer. Je vous invite d'ailleurs à cet égard à écouter l'épisode vraiment jusqu'au bout parce que vous verrez qu'à la fin de notre conversation, Henri parle avec un recul et une sagesse assez remarquables de son succès et nous laisse un message d'une profondeur qui m'a marqué. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Henri Tran. Salut Henri, bienvenue sur le Gratin.
Salut.
Merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai beaucoup ri en préparant cette interview, ça fait plaisir. Donc je te remercie déjà d'avoir créé ta chaîne avec ton frère. J'ai eu plein de questions, mais je voulais commencer tout simplement par des trucs que je n'avais pas réussi à trouver sur le net. Pourtant, okay. J'ai fait mes recherches. J'ai vu que tu venais d'une famille, je crois, chinoise et vietnamienne, si mm-hmm. je ne me trompe pas. Mm-hmm. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu, comment était ton enfance ? Où est-ce que t'es né ? C'était un peu quoi la vie du petit Henri ? T'es petit garçon ?
Alors, mes deux parents, alors mon père venait du Vietnam, ma mère venait de Pékin. Chacun ont quitté leur pays respectif parce qu'il y avait les tensions à l'époque. Ouais. Ma mère par rapport au régime de Mao et mon père qui avait connu justement la guerre du Vietnam, etc. Et ils sont venus en France et se sont rencontrés ici. Et donc, sympa. la vie du petit Henri, à quoi ça ressemblait Alors, j'étais assez gâté.
C'est vrai.
Oui, mais mon frère était là pour me donner quelques coups et me rappeler que...
La relation entre frères. Vous n'avez pas de troisième... Il n'y a pas de troisième personne, enfin, de troisième enfant dans la famille?
Non, on n'a pas de troisième enfant
donc,
dans la famille.
Dernier, donc c'est le petit dernier.
Petit dernier, le petit gâté. La puissance des petits frères, hein, toujours.
C'est ça. D'accord. Et du coup, vous étiez en région parisienne, je crois, c'est ça?
Oui. Alors, d'abord, on a grandi à Noisy-le-Grand avant de déménager pour Paris dans le 3e arrondissement. Et depuis, j'ai eu pas mal de... Bon, j'ai fait quasiment toute ma scolarité dans les environs, quoi. J'ai d'abord été dans un... Alors, c'était le lycée, c'était les Francs-Bourgeois, à côté de Bastille. Et j'ai fait mon lycée dans un lycée qui s'appelait Bossuet-Notre-Dame.
D'accord.
Qui était vers République. Et ensuite, j'ai enchaîné par la classe préparatoire, etc.
T'étais plutôt bon élève ou pas?
Oula.
La question qui tue. Parce que t'as fait une prépa et t'as très bien réussi ensuite tes études, parce que t'es rentré à l'ESSEC.
Ouais.
Mais ma question, c'est est-ce qu'avant ça, tu bossais et t'étais bon élève?
Alors, on va dire que la prépa, c'était le comeback phénoménal.
D'accord.
Parce que... alors, ça dépend. J'ai eu des phases, en fait. J'ai eu des phases de bon élève. Puis après, si j'ai été bon élève une année, l'année d'après, j'étais nul. Bon, ça va savoir pourquoi. Mais au lycée, j'étais pas spécialement bon parce que j'étais absorbé par les jeux vidéo. J'adorais ça. Et en fait, quand je revenais, je faisais juste rapidement mon travail, mes devoirs. Et puis après, j'allais sur League of Legends, un jeu que j'adore toujours. Et franchement, c'est pour ça que j'étais pas trop concentré en cours. J'étais assez fatigué parce que je me couchais tard.
Ouais.
Et ça se ressentait dans mes notes. Et donc, bon élève, pas spécialement au lycée.
Mais donc un peu geek.
Un peu geek sur les bords, oui, quand même. J'adore tout ce qui est univers du jeu vidéo, du manga, etc. C'est vraiment ce qui a bercé mon enfance et j'adore ça.
Et donc les jeux, tu me dis, c'est quoi? As-tu joué à quoi quand tu étais petit?
Alors,
faut peut-être toujours. Hein.
Oui, alors moi je suis plutôt un joueur, je joue à un seul jeu à la fois avant de passer à un autre jeu.
D'accord.
Pendant longtemps, j'ai joué à Dofus, qui était le jeu, c'était Ankama Games qui le faisait à l'époque. Assassin's Creed par Ubisoft. Pendant un bon moment aussi, puis je suis passé à League of Legends, Riot Games. Du coup, ça c'est vraiment le jeu phénoménal.
En plus, l'un des, je crois, le jeu le plus joué.
L'un des plus joués. Maintenant, ils ont été dépassés par Fortnite, je crois. En tout cas, sur Twitch, on peut voir que ce qui est le plus streamé, c'est Fortnite plutôt que League of Legends. Et maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai eu une paire de Dragon Ball FighterZ. Et enfin, maintenant, c'est Super Smash Bros. Ultimate. Donc, c'est un jeu de combat qui réunit tous les personnages de Nintendo.
C'est génial.
Et vraiment, c'est un jeu d'enfance. Hein. Il y a eu l'opus qui était sorti vers les années 2000, qui était Smash Melee sur GameCube.
D'accord.
Il y a eu plusieurs réitérations sur Wii, Wii U. Et la dernière qui vient de sortir, c'était celle sur Switch. Et vraiment, le jeu est incroyable.
Bah écoute, tu donnes envie. Il y a beaucoup de personnes, je pense, qui n'ont rien compris à ce
qu'on
vient de dire. Mais on est désolé, je donnerai des explications après. Puis vous pouvez toujours aller voir les notes, messieurs, dames. Je mettrai tous les liens vers tout ça. Mais du coup, tu tombes dans le jeu vidéo assez jeune et tu t'y dédies. Tu savais ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Tu avais une idée? Tu voulais être gamer? Enfin, c'était quoi un peu ta vision là-dessus? Ou tu pensais pas peut-être?
Alors, ce que je voulais faire, ou ce que mes parents voulaient que je fasse?
Je veux bien qu'on parle des deux.
Alors, mes parents, vision très traditionnelle, hein, quand j'étais petit, c'était généralement ingénieur, avocat ou encore médecin. Je me destinais d'abord à des métiers de. Enfin, un métier en médecine. Vers le collège, je pensais ça. Début lycée aussi. Puis après, mon frère a commencé à partir vers la voie d'ingénieur et je me suis dit que ça pouvait être sympa. Puis après, j'ai vu mes notes en maths en terminale, donc on s'est dit qu'on n'allait peut-être pas partir dans cette voie-là. J'ai découvert que j'étais... en fait, mon père nous a mis très tôt à l'aise avec les langues, que ce soit l'anglais ou le chinois.
Mm-hmm.
J'étais plutôt bon dans ces matières-là. J'aimais bien l'histoire et l'économie. J'étais pas bon en maths, mais j'étais pas nul non plus.
Mm-hmm.
Et la voie naturelle qui est tombée sous mes yeux, c'était celle de la voie économique. Je me suis dit, OK, après la terminale S, qu'est-ce que je peux faire? On m'a proposé école de commerce. Je suis allé voir ça avec mes parents. Et là, catastrophe, qu'est-ce que c'est que cette filière? On n'en a jamais entendu
c'est vrai,
parler.
Tes parents étaient pas motivés
pour ça. Oui, mais parce qu'on a une famille scientifique de base. mais du coup, voilà, j'avais proposé école de commerce. Et ils m'ont dit, OK, mais quitte à tenter école de commerce, tente les meilleurs. je me suis retrouvé en classe préparatoire, un peu reculon d'ailleurs, j'étais vraiment pas prêt de base. Et même si je n'étais pas spécialement bon élève au lycée, c'était parce que, en fait, j'étais pas bon élève parce que je passais mon temps à jouer aux jeux vidéo. Prépa oblige, au bout d'un moment, on pose la manette et on travaille. Et il se passait que, quelque part, mes profs de lycée avaient raison quand ils disaient que j'avais un potentiel et que j'exploitais pas. À partir du moment que j'ai commencé à vraiment bosser et à l'exploiter, entre guillemets, j'étais devenu bon. Et après, c'est parti.
T'as aimé tes années de prépa?
Alors oui, c'est vrai que ça dépend beaucoup des gens.
Oui, il y a des gens qui détestent.
Oui, qui détestent, qui disent que c'était la période du bagne, etc. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé parce que j'avais encore cette image du lycée où j'étais un mauvais élève. Ouais. Et quelque part, pour la première fois depuis plusieurs années, j'étais enfin devenu bon en cours, en fait. Donc j'ai... voilà, c'est ça, je me suis dit, ouais, putain, je suis bon. Donc du coup, je me suis donné à fond dans ces études. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai beaucoup aimé l'ambiance qu'il y avait à l'intérieur des gens qui s'encourageaient, parce qu'il y a quand même pas mal de clichés sur la prépa en se disant que les gens se mettaient des bâtons dans les roues, que c'était un milieu vraiment malsain. Moi, je ne l'ai pas vécu comme ça.
Oui, je pense que ça dépend énormément des classes et des
écoles. Oui,
et
personnellement, dans ma classe prépa, vraiment, on s'amusait bien. Hein. Moi, j'étais en internat personnellement. Et à chaque fin d'exercice, on allait se taper une pétanque avec les potes. Il y avait un terrain de pétanque.
Dans ton école, c'est tout cool.
Et ça, donc après un exercice de maths, pétanque, puis après on reprenait avec de l'écho, c'était sympa.
Donc tu rentres en grande école et en parallèle de tout ça, on peut quand même le dire, donc ton frère et toi, vous créez Le Rire Jaune.
Oui.
Est-ce que tu peux me raconter, c'est évident et je pense qu'il y a plein de gens qui le savent, mais comment est-ce que vous décidez à lancer cette chaîne YouTube? Parce que c'est quand même pas évident quand on est un jeune, entre guillemets, qu'il n'y a personne dans ta famille, d'après ce que je comprends, qui était dans le milieu YouTube ou de l'humour. Qu'est-ce qui vous prend, quoi? Qu'est-ce qui vous passe par la tête?
Alors, ça revient plus ou moins à ce que je disais, au fait que j'aimais bien les mangas et les jeux vidéo. En fait, YouTube, c'est une plateforme que j'ai découvert parce que je voulais regarder des épisodes de Naruto, de base. C'était un manga que j'adorais et il n'y avait pas vraiment de rediffusion à l'époque, vers 2005-2006.
Ouais.
Et du coup, j'avais découvert la plateforme parce qu'on m'avait dit qu'il y avait des épisodes du manga dessus. Donc, je découvre la plateforme comme ça. Et vers les années 2011-2010, arrivent les premiers YouTubeurs américains qui faisaient des vidéos d'humour aux US.
Il y avait par exemple ?
Alors, il y avait Ryan Higa, qui fait toujours des vidéos, donc Niga Higa, N-I-G-A-H-I-J-A.
D'accord.
Just Killing Films, Kev Jamba, beaucoup de Smosh aussi, qui est un duo. Donc, c'est des chaînes YouTube assez connues encore aujourd'hui. Et mon frère et moi, on avait commencé à regarder ces vidéos-là, on a beaucoup aimé, et on voulait faire pareil, en fait. Et il y avait une chose qu'on avait pu voir, c'est qu'en France, il y avait quelque chose qui n'existait pas encore à ce moment-là. C'était, en fait, à chaque fois qu'on voyait des Asiatiques, enfin des personnes d'origine asiatique apparaître à l'écran, que ce soit dans les médias traditionnels comme la télévision ou le cinéma, très souvent, c'était pour jouer des rôles clichés, des rôles de composition, où il fallait faire l'accent, l'expert en arts martiaux... Un peu le mafieux blanchisseur d'argent, etc.
Le coup, ou sinon le very bad trip, tu sais, où t'as le type très drôle, hein, mais bon, ouais. Hyper cliché.
Oui.
Enfin, plus que cliché d'ailleurs.
Alors, est-ce que c'est drôle, est-ce que ça l'est pas, c'est subjectif, ouais. Mais en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que c'était assez frustrant parce que je me reconnaissais pas dans ces clichés. Et avec mon frère, on avait décidé de changer ça. S'il fallait créer une chaîne YouTube, on voulait également transmettre un message qui comptait pour nous. Et c'est pour ça qu'en 2012, on a lancé la chaîne Le Rire Jaune. Et le slogan, c'est « Parce qu'un Asiatique qui n'utilise pas l'accent peut quand même vous faire rire ». Sur cette chaîne, on s'attelle vraiment à montrer qu'on peut faire rire comme n'importe qui, avec un humour travaillé. Et on traite de beaucoup de sujets, on fait de l'humour sur notre vie de tous les jours, on parle de nos passions comme le basketball, le taekwondo, les mangas. Ensuite, avec les abonnés, on essaie d'échanger beaucoup aussi. On parle un petit peu de ce que nous, on a fait, notre parcours et comment on peut les conseiller spécifiquement, par exemple, par rapport aux études. On en a quand même pas mal qui nous demandent par rapport à ça, mais également sur des questions un peu plus personnelles, sur, par exemple, comment développer sa relation avec son frère et sa grande sœur ou des choses comme ça. Parce que, et ça, je l'ai découvert en faisant des vidéos, il y a énormément de frères et sœurs qui ne s'entendent pas du tout dans la vie de tous les jours. Et ça m'a permis de me rendre compte à quel point ma relation avec mon frère était assez fusionnelle pour le coup.
Bah là, c'est une question que j'allais te poser de toute façon, mais on peut en parler maintenant. C'est, vous avez tout de suite, j'ai vu que tu as commencé à travailler avec lui sur le projet. Ça a été une évidence pour vous de collaborer comme ça ou vous aviez un peu peur justement parce que c'est vrai que quand t'es frère et sœur, puis tu me parlais de vous petit ou ben, parfois de charrier un peu, je peux imaginer, tu vois. C'est vrai que parfois c'est pas facile quand même. Il y a de l'ego, il y a des. Pour vous, c'était évident de travailler ensemble ?
Alors oui, parce que en termes d'ego, on s'est rarement chamaillé par rapport à ça avec mon frère. On faisait beaucoup de choses ensemble. On a fait du basket ensemble pendant un bon moment. Quand lui avait commencé, il m'a un peu forcé à le faire aussi avec lui. Mais j'avais passé beaucoup de temps avec mon frère. Les jeux vidéo, on jouait tout le temps ensemble. Ouais. Et une chose qui faisait qu'on était aussi proche avec mon frère, c'est parce que mes parents n'étaient pas souvent à la maison. Ma mère est médecin. Et ce qui se passe, c'est qu'elle partait travailler de 9h jusqu'à 20h du soir. Et mon père était très souvent en déplacement. Il s'arrivait qu'il n'était pas là pendant deux semaines durant tout un mois. Et bon, bah, la plupart du temps, du coup, on avait une nourrice qui s'occupait de nous quand on était petits. Mais le trois quarts du temps, je le passais avec mon grand frère, quoi. Et on se chamaillait, on se battait comme n'importe quel enfant. Mais le fait qu'on soit tout le temps ensemble fait qu'on s'entendait plutôt bien, quoi. Un autre truc en dehors de l'enfance qui fait qu'on s'est énormément rapprochés, ça revient aux études de mon frère. Quand j'étais au lycée, lui a fait 3 ans de classe préparatoire également, ça c'est un peu de famille du coup. Mais pendant cette période-là, j'ai pas passé beaucoup de temps avec lui parce qu'il devait travailler. Et du coup, le peu de temps qu'on passait ensemble pendant cette période-là, autant le passer à pas se disputer. Et quand on a commencé à travailler ensemble, en fait, alors on s'est chamaillé de temps en temps sur comment travailler, etc. Mais en fait, ça nous a beaucoup rapprochés dans le sens où le travail rapproche aussi, quelque part.
Bien sûr. Et puis vous aviez un projet commun, quoi. Donc vous pouviez parler tout le temps, enfin plein de trucs à voir. Oui, vous êtes répartis les rôles ou comment ça s'est organisé ? Ça s'est fait de façon naturelle ?
Alors au début, c'était plutôt mon frère qui était devant la caméra. Moi, j'étais derrière pour filmer. Je pense que c'est parce qu'au début, j'avais 16 ans, j'étais encore jeune, j'avais peur d'apparaître à la caméra. Moi, je voulais aider Kevin, je voulais participer à l'aventure, donc j'étais caméraman de base. Je l'aidais un petit peu à penser quelques idées sur les textes et tout. Et puis après, en fait, je faisais des apparitions ponctuelles dans les vidéos. Où,
la petite caméo.
C'est ça, la petite caméo du petit frère qui se fait taper par son grand frère. Et à chaque fois, c'était ça, hein, j'apparaissais, je me prenais un coup. Et du coup, il y avait beaucoup de gens dans les commentaires qui disaient « Mais il est marrant, le petit. Est-ce que ce serait bien qu'il fasse une vidéo toute seule ?» Toute seule, allez, c'est parti, je me change. Alors, tout seul. Et on les a écoutés. C'est comme ça qu'un an après, je fais ma vidéo sur avoir 18 ans en solo. On l'avait écrit avec mon frère.
Première vidéo solo.
C'est ça. Et ça avait pas mal marché.
Grosse pression quand même pour toi de passer de l'autre côté de la caméra tout seul, non ? Parce que vous aviez déjà quand même une grosse audience à ce moment-là.
Alors, grosse audience. Alors, est-ce qu'à cette époque-là, on avait déjà un suivi ? On avait déjà un suivi, c'est sûr. Maintenant, j'étais quand même assez rassuré parce qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un devant la caméra, il y a l'autre frère qui est derrière, en fait, de manière générale. Et mon frère, qui avait quand même plus d'expérience que moi après un an de pratique, me rassurait beaucoup, me disait les choses à faire. Et en fait, ce qui est pratique aussi avec les vidéos YouTube, contrairement au stand-up où c'est du direct, quand on rate quelque chose, on peut le refaire.
Donc
on travaille et non, pas spécialement pas stressé, non, pas trop de pression. C'est ça qui était bien. C'est là où aussi on est avec son frère, on n'est pas avec. C'est pas une relation
contractuelle, quoi.
C'est ça.
Tant mieux. Donc j'ai vu que vous avez fait énormément de vidéos maintenant et enfin on va en parler, votre chaîne est juste l'une des plus grandes chaînes en France, on peut le dire, mais est-ce que tu te rappelles d'un moment ou de certaines actions peut-être que vous avez prises qui vous ont vraiment fait exploser ou c'est vraiment peut-être à l'inverse juste l'accumulation puisque ça s'est pas fait en un jour hein, quand on y pense de 2012 à aujourd'hui vous avez quand même bossé, mais est-ce que voilà il y a des moments dont tu pourrais me parler où tu t'es dit waouh là il se passe quelque chose?
Alors Oui, je les vois plutôt clairement. En fait, ça dépend. Une chaîne YouTube, il y a plusieurs façons de grandir. Il y a par exemple la vidéo YouTube qui fait exploser la chaîne, puis après ça monte de manière exponentielle avant que ça s'atténue. Il y a la chaîne YouTube où c'est petite croissance par petite croissance, de manière on va dire régulière, et surtout parce que c'est l'accumulation des vidéos. Et après, il y a un peu le mixte des deux, c'est l'accumulation, puis après une vidéo fait exploser, puis après on continue, la régularité fait que ça continue à monter. Je mettrais le rire jaune dans la catégorie de la troisième catégorie, dans le sens où on a régulièrement fait des vidéos pendant les premières années, c'était une fois toutes les deux semaines. Et en fait, les vidéos qui nous ont fait exploser, c'était très souvent des vidéos où il y avait déjà une communauté dans les sujets dont on parlait en fait. Il y avait la vidéo sur les Asiatiques, la première, qui abordait les clichés asiatiques, on essayait de les démonter, donc les premiers viewers à l'époque, c'était des Asiatiques qui, justement, ont partagé la vidéo en masse. Ensuite, une autre vidéo qui avait bien marché, c'était celle sur les mangas, où on parlait de nos mangas préférés et où on se moquait un petit peu des concepts qu'il y avait à l'intérieur. Ouais. Ça aussi, ça a été beaucoup partagé.
Peut-être tous les fans de mangas qui l'ont relayé.
C'est
quoi.
Ça. Ensuite, il y a eu la vidéo sur le basketball. En fait, on voit qu'au début, c'était des thèmes très asiatiques et ça s'est diversifié au fur et à mesure, qui fait que le cercle d'audience a grandi aussi. Pour la vidéo sur le basketball, c'était Kevin entièrement, parce qu'il avait cette passion pour le basket, il pratiquait ça depuis déjà une bonne dizaine d'années. Et tous les fans de basket se sont reconnus dans la façon de charrier son pote sur un terrain, sur comment shooter, sur les phrases type. Et enfin, une des vidéos qui a... Enfin, encore ça, c'est les premières années. Une des vidéos qui nous avait vraiment fait exploser au début, c'était la vidéo qui parlait de la relation entre frères. C'était avoir un frère. Et c'était en fait, globalement, le petit frère qui se fait taper. Le grand frère qui dit que le petit frère est favorisé vis-à-vis des parents. Par exemple, moi, je me rappelais, moi, à mon âge, j'étais quoi ? J'étais en sixième, j'avais eu une console de jeu. Alors, c'était laquelle qui était sortie à ce moment-là ? Déjà, en sixième, ça devait être la PS3 ou quelque chose comme ça. Alors que mon frère, à mon âge, il venait à peine d'avoir une Game Boy, quoi. Et il trouvait ça que c'était injuste. Donc là, beaucoup de frères et sœurs se sont reconnus dans cette vidéo, l'ont partagée en masse. Et là, on a commencé vraiment à avoir un bon suivi. Et the rest is history.
Mais ce que je trouve assez génial, on en parlait avant de commencer dans ce que vous faites, c'est qu'à la fois il y a de l'humour, mais en même temps, alors moi j'ai regardé dernièrement une vidéo sur les échecs, je te disais, où vous démocratisez entre guillemets la pratique de l'échec, et on explique, et finalement c'est assez technique quand même, donc en l'occurrence là c'est Kevin qui parle, mais même tu vois, quand tu parles du basket, ou toi j'ai vu que tu faisais des vidéos sur le taekwondo par exemple. Je trouve que c'est hyper intéressant et je voulais savoir si c'était quelque chose que vous aviez fait de façon consciente ou pas, de donner finalement un trait d'humour à des concepts qui sont pas si simples et à des idées. Et j'ai l'impression quand même que vous remplacez une forme d'enseignement, tu vois, ou une forme de culture. Alors ça paraît peut-être un peu grand de dire ça, mais en même temps je trouve ça assez vrai, tu vois. C'est que finalement tu dis t'éduques. Enfin, votre job maintenant c'est quand même d'éduquer des gens sur des thématiques hyper variées, quoi. Avec votre style et avec votre humour. Mais il y a clairement un message et une pédagogie, je trouve.
Alors, en fait, de manière générale, la première mission, c'est de faire rire. De base, c'est vraiment ça qu'on veut faire. Après, la chose qu'on peut voir sur ces thèmes un peu plus pointus, entre guillemets, c'est parce qu'en fait, on produit notre contenu en fonction de l'évolution dans notre vie. Et ce qui se passe, c'est que mon frère et moi, on a un parcours assez scolaire, on va dire, pour le coup, et ce qui fait qu'on a des thèmes... un petit peu plus sophistiqués, on va dire, qui ne sont pas forcément de la vie de tous les jours. Par exemple, les échecs, c'est quelque chose que Kevin a pratiqué parce qu'il traînait avec ses potes qui jouaient aux échecs, qui n'est pas non plus une pratique très démocratisée en dehors de certains milieux. Moi, par exemple, j'avais fait une vidéo sur la classe préparatoire, mais c'est parce que j'ai évolué dans ce sens-là. Et du coup, j'ai quand même réussi à montrer à beaucoup de gens que la prépa, c'était pas si terrible que ça. Bon, si, c'est dur. Hein.
Et vous avez des personnes qui vous contactent, je suis désolée, je t'interromps, pour vous dire, ça m'inspire, du coup, j'ai envie de faire une prépa ou pas ?
Alors, ça
ou
dépend.
Des échecs il y a eu... ou du taekwondo ?
Alors, l'échec, oui. Parce que Kevin a réussi à donner un côté fun aux échecs, pour montrer que c'est pas seulement un jeu de vieux, il y a de la stratégie, il y a des choses marrantes qui peuvent se passer sur l'échiquier. D'ailleurs, quand il a commencé à jouer aux échecs, il m'a mis en même temps au truc, parce que si jamais Kevin pratique les échecs pour réaliser une vidéo... il faut qu'il y ait un joueur en face, et c'est passé que le joueur en face était moi. J'ai commencé avec un niveau, je connaissais les règles, on était dans un club d'échecs avant quand on était petit, mais j'avais commencé avec un niveau très débutant à un niveau correct maintenant, parce que j'ai fait une vidéo sur les échecs et donc je devais jouer aux échecs. Donc du coup, pour ça, alors il faut que je retrouve le fil de la question.
Le fil de la question, c'est déjà, je te demandais s'il y a des gens qui vous disent par exemple qui vont se mettre aux échecs ou qui vont envisager de faire une prépa parce qu'ils vous ont vu aux vidéos et que vous aviez cette dimension pédagogique.
Oui, alors généralement, alors la prépa c'est particulier parce que les deux premières vidéos où je disais ce que c'était en disant que voilà, on se réveille à 8h et on termine à 23h, ça donne pas envie, c'est pas très sexy hein, de dire ça. Mais là où la vidéo a pu inspirer certains, c'était la vidéo où j'ai fait une vidéo en fait où je découvre mes résultats en direct lorsque je suis accepté à l'ESSEC en fait. Et c'était vraiment...
Tu savais réellement pas si t'allais être accepté ou pas ?
Non, je savais pas si j'allais être accepté ou pas. Et c'était, en gros, c'était en mode ok, si je l'ai pas, on la publie pas. si je l'ai, on la publie et ça me fera un formidable souvenir pour plus tard. Et finalement, je l'ai eu. Et en fait, après l'avoir eu et en me voyant sauter de joie, on revient un petit peu sur mon parcours au lycée. On disait que c'était compliqué, j'avais eu un avis défavorable au bac, etc. Jeux vidéo, hein. Mais du coup, ça en a inspiré beaucoup, qui disaient que c'était possible après le lycée de se rattraper et que le jugement de certains professeurs ne sont absolument pas déterminants pour la suite. Ça, c'est la prépa. L'échec, c'était quelque chose où on montrait que c'était fun. Et dernièrement, j'ai découvert, parce qu'en fait pendant la prépa j'ai arrêté le taekwondo qui était mon sport principal pour me concentrer entièrement sur les études, et là j'ai repris en 2019. Je me suis dit, c'est ma résolution de cette année, je dois passer ma ceinture noire, parce que j'ai arrêté juste avant la ceinture noire.
Oui, donc tu avais quand même déjà un petit niveau, quoi.
C'est ça, mais j'avais arrêté avant la ceinture noire en terminale, et je me suis dit ok, maintenant c'est le moment de reprendre. Et quand j'ai repris, je suis allé à plusieurs stages pour me remettre à niveau. J'ai vu plein de gamins ou d'adolescents qui venaient me voir pour me dire, écoute, c'est grâce à ta vidéo que j'ai commencé le taekwondo. Et là, vraiment, je ne m'y attendais pas.
Génial.
Parce que c'était vraiment côté fun. Je disais, le taekwondo, c'est stylé, j'adore ça, etc. Mmh. Mais là, pour le coup, je ne pensais pas que j'allais inspirer des gens à commencer le taekwondo. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Et oui, c'est cool de savoir qu'on peut parfois avoir un impact sur la vie de certaines personnes. Surtout que il y a des fois une dimension de développement personnel dans ce genre d'activité. Par exemple, le taekwondo, c'est toute une notion de respect, de connaissance de soi, de contrôle, de persévérance et de combativité. Et ça me fait plaisir de faire découvrir ce sport avec tant de valeur à des plus jeunes, quoi.
Bah, c'est ça, une fois de plus, que je trouve assez admirable dans ce que vous faites, c'est qu'on sent qu'il y a quand même... Enfin, j'ai pas envie de dire que vous n'êtes pas dans le cliché, tu vois, du youtubeur, mais où on peut se dire que c'est parfois un peu superficiel. Là, en fait, il y a un vernis drôle et donc on peut penser superficiel, mais en fait, les thèmes qui sont abordés sont quand même plutôt... pas toujours, hein, mais ils sont quand même, j'ai trouvé, plutôt profonds. Et puis surtout, ce que je trouvais intéressant, c'est voilà, que vous essayez un peu, une fois de plus, d'être pédagogique, d'éduquer.
Oui. Alors la pédagogie, en fait, c'est... Alors, on pensait pas être pédagogue, le terme, je sais pas si c'était vraiment ça, mais en fait notre but, c'est vraiment, en fait, le défi sur un sujet comme les échecs par exemple, c'est de faire en sorte que ceux qui ne jouent pas ne comprennent quelque chose au moins, en fait, et que les experts du domaine se disent ok, il a pas dit n'importe quoi non plus. Et c'est pour ça que au début, nous, on se dit, ok, il y a des termes qu'ils comprennent pas, donc il va falloir faire des images pour leur montrer un peu comment on commence. Et vraiment, c'est un petit peu comme une dissertation, en fait. Hein. Ouais, c'est clairement. Introduction, etc. Et ça se développe. Et une fois qu'on a écrit ce texte, il est très important, du coup, de le relire à d'autres personnes, y compris à des joueurs professionnels.
J'allais te demander, justement, si vous le faisiez relire à soit des experts, soit à l'inverse, des personnes qui connaissent rien, pour aussi
On fait des deux. Du coup, c'est vraiment ça. On va voir quelqu'un qui joue pas du tout aux échecs parmi nos amis. On dit, ok, est-ce que tu trouves ça cool? Ils me disent, ok, il y a deux, trois petites subtilités que je comprends pas, mais de manière générale, c'est très fun. Donc là, déjà, c'est bon. Puis après, il faut aller chercher quelqu'un qui est joueur professionnel d'échecs, par exemple. Et comme Kevin avait vraiment creusé le sujet, généralement, on parle que de sujets que l'on connaît vraiment profondément, en fait. Comme on avait beaucoup creusé, le joueur professionnel a dit que c'était ok pour lui, qu'il n'y avait pas d'énormité, et que même c'était plutôt pointu pour le coup, même à ses yeux, quoi. D'ailleurs, c'est là aussi on fait des rencontres où on échange. En fait, c'est en dehors du sketch, hein, on échange sur des choses. Et moi, je me rappelais, il y a eu un truc qui m'avait marqué en parlant à ce joueur d'échecs. C'est, il disait, le nombre de possibilités qu'on peut faire par rapport aux échecs, c'est normal avec le nombre de cases qu'on peut, et les nombres de variantes. Mais à partir, je crois, du quatrième coup, il nous a dit, voilà, je vais vous montrer le document que je dois retenir en cas de cette variante-là. Et on s'est retrouvé avec une page, enfin un document, mais épais de...
Ah ouais, non, c'est
de, je sais pas combien de... Enfin, c'était insane.
Non, mais c'est clair qu'au-delà des rencontres, vous devez... Enfin, vous-même, vous former, ça doit être passionnant d'apprendre autant de choses, quoi. Bah, ça m'intéresse justement de parler un peu du process créatif, parce que je pense que ce qui est important, c'est que les gens comprennent aussi que, bah, en gros, on ne s'invente pas un peu YouTuber successful du jour au lendemain, et vous, bah, déjà, vous bossez depuis 2012, mais au-delà de ça, comme on peut le comprendre, tu fais des tests avec des experts, avec des personnes qui n'y connaissent rien, enfin, vraiment, en fait, vous bossez. Est-ce que tu peux me décrire un peu de A à Z le processus créatif d'une vidéo? Qu'est-ce qui se passe? Combien de temps ça vous prend? Comment vous répartissez les rôles?
Alors, le process créatif d'une vidéo, ça peut vraiment... alors, il y a des grandes lignes, puis après, ça peut varier, parce que bon, c'est pas tout le temps le cas. Bon, en gros, la première étape, c'est très souvent l'écriture. L'écriture, pour nous, c'est l'une des parties les plus importantes, parce que c'est là où on brasse le sujet, on essaie d'être le plus exhaustif possible, et on essaie de ramener les blagues de manière la plus fine possible. Donc, et également, c'est le moment où on détermine le format. Est-ce que c'est de la face cam? Est-ce que c'est du court métrage? Mmh. Est-ce que c'est de la réal? Et du coup,
et ça, c'est lié à l'écriture.
C'est ça, c'est lié à l'écriture vraiment au moment où on se dit, ok, on part sur quoi? Ensuite, déjà, il faut, bon, bien sûr, il faut un thème. Et là, généralement, on pioche dans notre vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'on connaît bien? Qu'est-ce qu'on connaît pas? Qu'est-ce qu'on veut découvrir? Et donc, du coup, ça, c'est la partie d'écriture qui peut durer. Et là, pour le coup, ça joue vraiment à l'inspiration des fois. Ça peut durer entre, allez, quelques semaines et un an.
Ah ouais.
Parce que des fois, on arrive à des moments où on se dit, ok, on a un sujet, mais on a vraiment envie de le creuser à fond. Et on a envie que ce soit la vidéo parfaite quelque part. Mmh. On n'hésite pas à prendre du temps à écrire. Par exemple, la vidéo sur les écoles de commerce que j'ai faite a pris énormément de temps parce que de base, on voulait faire un court-métrage. On a découvert le prix. bon, concrètement, un court-métrage, ça coûte cher à produire. Et donc, on a renoncé à l'idée. Et puis finalement, on a fait un facecam, mais c'était limite mieux en fait en termes de résultats parce qu'on adorait faire ça, c'était marrant et puis en plus on a réussi à voir Jean Lassalle dans la vidéo donc c'était marrant aussi. donc ça c'est le processus d'écriture.
Ensuite, vous écrivez à deux, pardon?
On écrit à deux de manière générale. Alors ouais. Ça dépend, il y a des vidéos où l'un trouve plus d'idées que l'autre. Naturellement, sur une vidéo sur le taekwondo, c'est moi qui ai plus de matériel Kevin et quand Kevin parle de basketball, c'est lui. Ensuite, la partie de la réalisation. Donc c'est la partie de tournage hein, où on doit faire attention au son et à la lumière, etc. C'est un ou deux jours, trois jours des fois. La partie montage qui dure entre 80 et 100 heures de travail, parce qu'on prend beaucoup de prises hein, pour avoir les belles phrases, les bonnes phrases en tout cas. Et ça prend du temps.
Ah, j'aurais pas pensé qu'il y avait autant de travail de montage. Tu
oui,
vois.
Parce que en dehors, en fait, le découpage des différentes vidéos, évidemment on peut les superposer. Mais il faut également penser au texte qu'on va rajouter dans la vidéo, aux images qu'on va y rajouter, comment on les rajoute, à quel moment, est-ce que si on rapproche une partie d'une vidéo de 1 milliseconde, est-ce que ça rend mieux? C'est vraiment un travail de longue haleine, et aussi parce qu'on a un côté perfectionniste quelque part quand on fait le montage, et vraiment, des fois, on se dit, ok, dans 10 minutes, j'arrête. Et après 10 minutes, ok, dans 15 minutes, j'arrête. Et ça ne s'arrête jamais, en fait. Mmh. Et à la fin, t'as mal au dos parce que t'es resté assis trop longtemps. Mais donc ça, c'est la partie montage. Puis après, arrive le moment où il faut communiquer sur la vidéo. Et là, bon, bah, c'est les réseaux sociaux.
Rapide, ouais.
Mais il y avait des choses, des toutes petites choses que nous, on ne connaissait pas à l'époque. Par exemple, à 16 ans, jamais je me serais dit, ok, il faut que je pose vers 17-18 heures parce que c'est une heure d'affluence. Ça, on l'a appris assez vite, mais c'est quelque chose, et même en montage, on a beaucoup progressé, en réalisation aussi, et
vous
en écriture
tout,
également.
Vous-même, aujourd'hui, c'est-à-dire que à la fois la partie réalisation, enfin, tu me disais au début que c'était toi le caméraman, donc tu t'es formé quoi, tout seul, mais vous continuez aujourd'hui, vous faites un petit peu aider, et puis même sur le montage, vous gérez encore toute cette masse de travail.
Alors aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que quand on peut, on continue à le gérer tout seul. Maintenant, ce qui se passe, c'est que des fois, quand on a plusieurs projets qui avancent en même temps, parce que ça commence à devenir compliqué, eh bien, on engage un de nos amis qui est freelance monteur, et lui, il avance pendant que nous, on fait d'autres vidéos où on écrit. Surtout que maintenant, en fait, on n'est plus que youtubeurs. La plupart des youtubeurs que vous connaissez aujourd'hui ne sont plus que youtubeurs. On est avant tout, en fait, comment dire ? Très souvent, on dit, ok, c'est des youtubeurs, ce qui est vrai, parce que c'est notre activité principale, mais avant tout, on est en fait des créatifs et ce qu'on aime faire, en fait, c'est juste créer et voir des gens kiffer.
Ouais, bien sûr.
Et c'est pour ça qu'en dehors de YouTube, on entreprend certaines choses, d'autres projets qui font que ça nous prend une part de notre temps aussi. Mm-hmm. Je vous donne l'exemple, par exemple, de Norman qui a fait Norman sur scène en one-man show parce qu'il adore faire rire et que c'est, j'imagine, un rêve d'enfant. Mr. V qui a fait son album de rap. Mon frère qui a lancé son propre manga. Et moi, par exemple, à côté, j'essaie de donner des conférences parce que j'aime transmettre aux gens en fait ce que j'ai compris. Et donc, du coup, c'est des projets qu'on fait à côté, mais du coup, ça nous enlève du temps sur la production de vidéos. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, il faut savoir déléguer, il faut savoir se dire, ok, à deux, on ne peut plus le faire aussi bien qu'avant. Il faut qu'on recrute des gens et voilà quoi.
C'est difficile pour vous de déléguer quand c'est autant votre bébé, enfin, je te pose cette question parce qu'il y a beaucoup notamment de freelance ou de personnes qui sont des entrepreneurs qui écoutent le podcast. Et souvent, quand il y a un premier recrutement ou même des premiers freelances avec lesquels on travaille, surtout dans des métiers créatifs comme le tien, c'est pas évident quand même de pas donner son avis sur tout et de pas pinailler sur tout, entre guillemets. J'ai l'impression qu'en plus vous êtes plutôt perfectionniste après ce que tu me disais. Est-ce que pour vous ça a été un peu un challenge, tu vois, d'accepter de faire ça?
Alors au début, en fait, c'était une nécessité, donc le challenge, on savait qu'on en avait besoin en tout cas. Maintenant, comment on communique par rapport à quelqu'un que l'on ne connaît pas au début? On joue carte sur table, on dit ok, moi j'ai aucun souci, et la première chose qu'il faut faire en tout cas, c'est de mettre son ego de côté, que ce soit en face comme de notre côté. C'est, on est là pour produire une bonne vidéo, donc si jamais j'ai des directives que je dois donner, s'il te plaît écoute-moi, et je te dis tout de suite que ce sera très détaillé et que je vais être chiant.
Tu le dis cash.
Généralement...
Non, parce qu'en plus, c'est ton image de marque, enfin, c'est votre image de marque qui est en jeu quand même, malgré tout.
Oui, on va dire ça comme ça. Et en fait, c'est vraiment... en fait, généralement, les gens avec qui on travaille aussi, c'est des gens qui regardent nos vidéos déjà de base et qui aiment bien notre travail, en fait. Et on explique que s'ils aiment bien notre travail, c'est qu'il y a une raison. C'est que derrière ça, il y a des choses qui sont méticuleusement planifiées et qu'il faut les respecter. Mais on l'explique toujours de manière posée, pas de conflit. Mais on dit voilà, moi en fait à chaque fois qu'on donne une directive, on explique pourquoi on la donne en fait. Parce qu'il n'y a rien de pire si jamais on dit ok fais ça parce que c'est moi qui le dis, là l'ego va rentrer en jeu.
Bien sûr.
C'est plus en mode ok, moi je verrai cette image là à ce moment là parce que je sais pas moi, la musique fait que là il y a un coup de tambour qui fait que si l'image apparaît maintenant, ça rendra bien. Si on explique ça comme ça de manière posée, il n'y aura pas de problème. Donc,
Plutôt pas de soucis.
Plutôt pas de soucis de manière générale. Qu'en fait, en dehors de ça, il y a autre chose que l'on fait vraiment avec Kevin. Généralement, quand on est. Maintenant, la plupart des gens avec qui on bosse sont nos amis, en fait. On essaie vraiment de faire en sorte que les gens ne se sentent pas comme simples exécutants, en disant ok, fais ton taf et puis point. Généralement, on les invite à la maison, on discute, on mange un petit dîner ensemble, on se pose et ça joue, quoi. C'est des potes, en fait.
Ouais, c'est sûr que du coup la relation elle est plus de confiance quoi de base.
Oui.
Moi j'aimerais parler aussi de l'avenir un peu de ta carrière et de la chaîne. Donc tu m'as parlé un peu des conférences, ça m'intéressait d'en parler. Qu'est-ce qui te plaît dans cette transmission? Alors tu le fais déjà avec YouTube d'une certaine manière, mais qu'est-ce qui te plaît et où est-ce que tu vois aussi l'avenir avec Kevin du Rire Jaune?
Alors, moi, ce que j'aime bien, en fait... Alors, il faut savoir, quand j'étais petit, j'étais pas bon à beaucoup de choses.
C'est ce que tu dis, mais bon.
Mais quand j'étais bon, je savais bien l'expliquer. Et en fait, moi, ce que j'aime faire, c'est très souvent... En fait, j'aime me rendre utile comme beaucoup de gens. Et quand j'ai compris quelque chose et que je leur explique les subtilités d'une activité ou d'un hobby ou quoi que ce soit, d'un concept, j'aime voir un petit peu cette lumière dans les yeux de la personne quand elle comprend quelque chose. Et comment dire, au début c'est très gratifiant, en fait. Il faut que je trouve mes mots parce que et en gros je me suis dit ok, j'ai envie de transmettre, qu'est-ce que je peux transmettre? Et l'expérience que j'ai et que je perdrai jamais, c'est cette expérience de YouTuber. Et en fait on arrive à un moment où ce métier, puisque maintenant c'est un métier, on peut en vivre, c'est beaucoup développé. Et en fait, on observe qu'il y a énormément d'entreprises qui s'intéressent au concept de chaîne YouTube, en fait, et ce qu'ils appellent globalement l'influence marketing, en fait. Alors, j'aime pas trop le mot parce que, bon, influence marketing, ça fait un petit peu influence, ouais, le manipulateur, c'est ça. Bon, ils ont donné ce terme-là, donc on va l'utiliser, mais bon. Mais il y a effectivement quelque chose à développer autour de ça. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, je vais me transmettre. J'ai une expérience, une expertise entre guillemets, comme beaucoup de mes professeurs disent. Alors encore une fois, est-ce que j'ai la prétention de dire que j'ai une expertise? Bon, c'est discutable.
Vous avez 4 millions d'abonnés, vous n'êtes pas mauvais quoi, enfin ça va, vous savez gérer.
Mais du coup je me suis dit ok, très bien, on va commencer ça, on va donner des conférences et on va voir ce que ça donne, parce que les conférences, c'est moi, quand j'en regarde, en tout cas je regarde beaucoup de TED, regarde beaucoup de conférences qui me sont données, qui sont mises à disposition grâce à mon école, j'adore ça. Et je me dis, à chaque fois que je ressors d'une conférence, lorsque l'intervenant est bon, je ressors avec une meilleure vision des choses. Ça me change ma vision par rapport à, je sais pas, une activité, à comment mieux vivre, l'équilibre travail-loisir, etc.
Te développer, quoi.
C'est ça. Et je me suis dit, ok, j'ai envie de faire pareil avec les autres. Donc maintenant, je donne des conférences en école de commerce pour leur expliquer un peu qu'est-ce qui se passe maintenant, et également en entreprise pour leur dire, ok, c'est important d'être présent sur les réseaux et notamment sur YouTube parce qu'il peut y avoir des retombées intéressantes pour des produits ou encore pour bien l'image sûr. D'une entreprise.
Tu sens que tu as encore besoin de convaincre sur ce point-là ? Ça me paraît quand même assez dément.
Alors, c'est le point où c'est un peu complexe parce qu'aux États-Unis, énormément de YouTubeurs font ça. Ouais. Les entreprises ont compris qu'effectivement, YouTube, c'était important. En France, j'ai l'impression qu'on arrive au point où on reconnaît que c'est important. On commence à reconnaître le métier de YouTubeur en se disant « Ok, il faudrait s'y mettre. Ouais. » Mais on ne met pas encore les moyens, ouais. Dans le sens où c'est vraiment... Oui, c'est ça, et c'est que le début, en fait. C'est pour ça que je pense que c'est nécessaire de venir et de leur expliquer que YouTube, c'est un métier... Enfin, YouTuber, c'est un métier qui peut aider les entreprises si jamais les entreprises se décident de se lancer dessus. Ouais. D'autant plus que Et c'est pas quelque chose que l'on peut faire de manière facile parce qu'il y a... Des défis, qui sont les codes d'Internet, qui ne sont pas les codes de la télévision. C'est pour ça que lorsqu'une entreprise recrute une maison de production spécialisée dans la télévision pour faire une chaîne YouTube, ça ne marche pas toujours.
Ouais, bah surtout que les codes de YouTube spécifiquement, je trouve, sont quand même assez... Enfin, moi, je consomme, mais pas plus que ça, mais je consomme quand même. Je vois l'image de base, tu vois, avec la typo. Enfin, il y a quand même un certain nombre de codes qui ne sont pas du tout les codes de la télé.
Il faut des gens qui sont spécialisés là-dedans pour bien faire le travail. Et ensuite, créer une chaîne YouTube... C'est aussi s'engager dans une sorte de défi qui est au-delà qui dépasse le défi créatif en fait. Il y a des défis qui sont aujourd'hui réels, qui sont économiques, qui sont juridiques et aussi éthiques. Dans le sens où économique parce que YouTube c'est une plateforme en ce moment ça a sa popularité, mais on voit très vite que en fait dans le marché de la vidéo en ligne. Ces dernières années, on peut observer qu'il y a une réelle concurrence, que ce soit entre YouTube, qui fait de la vidéo créative, mais également Twitch, qui font du direct, Netflix sur le format de la série. Donc la question, c'est, ok, il faut être présent sur YouTube, mais une fois qu'on a créé le pôle YouTube, il faut commencer à aller explorer les autres plateformes, que ce soit Snapchat, Instagram, Twitter, etc. Donc vraiment, on s'engage dans quelque chose. C'est pas le petit truc de pacotille que les ados font parce que c'est marrant. Il y a vraiment quelque chose à développer à côté de ça. Ça, c'est la partie économique. La partie juridique, et ça, on l'a vu dernièrement avec les différentes lois qui sont passées, que ce soit... RGPD, c'est plus par rapport aux données, mais on a eu l'article 13 de la directive sur les droits d'auteur qui est tombé. Alors, c'était quoi ? Ça a été voté le 12 septembre dernier, et ça a été approuvé par la Commission européenne il y a 3 semaines.
D'accord.
Où ça limite réellement, des fois, notre façon de concevoir le contenu sur Internet.
C'est-à-dire, tu peux me donner le... Alors, peut-être pas le détail du texte, mais juste en quoi est-ce que c'est...
Le détail du texte dit que, en fait, à l'époque, lorsque, par exemple, j'enfreignais quelques droits d'auteur, en utilisant une musique qui ne m'appartenait pas, c'est moi qui étais responsable. Le problème, c'est que sur YouTube, il y a 400 heures de vidéos qui sont publiées à la minute.
Ouais, c'est...
Donc, le créateur à qui j'ai exploité la musique ne peut pas attaquer ne sais combien de personnes à la fois. Le texte stipule qu'aujourd'hui, le responsable n'est pas le créateur qui a exploité la création, mais YouTube.
D'accord. Ah ouais.
Donc, ce qui fait que c'est la panique en fait chez YouTube. Et ils se disent, ok, on va se manger 3000 procès à la face.
Donc eux, maintenant, ils vont essayer de mettre en place, j'imagine, des process.
C'est ça. Et le process, c'est un algorithme assez sévère qui ferait que ça pourrait éventuellement limiter la création sur Internet. En tout cas, c'est ce qui a été communiqué.
D'accord.
Pour le moment, on n'est pas plus avancé que ça, mais on va voir comment ça va être mis en pratique. Mais le fait est qu'il y a des barrières juridiques qui commencent à être sur YouTube et même sur Internet de manière générale. Et que, encore une fois, les entreprises, si elles ont envie d'aller sur ce terrain-là, il faut qu'elles soient formées, faut qu'elles soient au courant. Et c'est pour ça que moi aussi, je suis là et j'espère que d'autres YouTubeurs le feront ou d'autres personnes pour leur expliquer et pour les accompagner vers quelque chose qui est encore nouveau en fait pour elles. La partie éthique maintenant, il y a eu plusieurs scandales par rapport à des contenus qui ont été publiés parce qu'on cherche toujours un peu la vidéo sans sas, virale, etc. Sauf qu'il y a le viral qui est sympa et le viral qui joue sur le scandale et qui des fois indigne les gens parce qu'on voit qu'on a mis en avant le buzz avant la morale, en fait. Et ça, c'est un peu dommage. Des fois, je donne un exemple. Il y a il n'y a pas longtemps, alors c'est pas une entreprise ou quoi, mais quand on voit un YouTuber américain qui va dans la forêt de la mort au Japon, qui se dit ok, on va filmer ce qu'il y a dans la forêt de la mort, et qui tombe sur un corps et qui décide de le filmer.
Oui.
Et après il floute juste le visage, mais en attendant on voit les mains violettes de la personne décédée. Et pour moi c'est il dit qu'il est là pour sensibiliser sur le suicide, mais tu peux le faire sans montrer le corps. Mmh. Et ça, pour moi, c'est du sens-as.
Ah oui,
et là, il y a une question éthique qui rentre en compte. Alors là, j'exagère, hein, j'extrapole, je vais prendre l'extrême, je prends le mec le plus la plateforme.
Mais il y en a, je pense que c'est un enjeu, clairement, le commercial versus l'éthique, versus, c'est toujours pareil. Hein, donc,
Et aussi, sur Internet, c'est aussi très important, dans le sens où quand c'est mis sur Internet, ça reste sur Internet, qu'on le supprime ou pas. Aujourd'hui, on publie une vidéo, on peut être sûr que quelqu'un l'a enregistrée.
Oui, bien sûr.
Et si jamais... D'ailleurs, il y a des choses comme ça qu'on appelle la loi d'Internet. Internet n'aime pas que l'on supprime des choses. Si jamais on supprime un contenu, il va être publié. Voilà.
Mais du coup, ça met d'ailleurs une certaine pression, parce que tu peux pas dire n'importe quoi. Enfin, tu sais que ça va te coller à la peau toute ta vie, quoi. Enfin... pas forcément de coller à la peau, mais en tout cas, il y a des preuves.
Et c'est pour ça que c'est très important aujourd'hui de savoir gérer son image sur Internet, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Et en tout cas, moi, c'est ce que je veux apporter. Alors, en transmettant ça à des gens qui sont en école de commerce comme moi.
Et où il peut y avoir un engrenage, je pense, face à la volonté d'émerger, parce que maintenant, on sait quand même avec un peu la... Alors, je vais faire beaucoup de poncifs, mais tu vois, le côté un peu tyrannie d'Instagram, du like, de machin, de je veux avoir le plus de followers possible. Bah, en gros, tu sais que pour avoir des followers, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, il faut que tu t'exposes un maximum. Et donc, effectivement, ça peut aller contre ce côté éthique dont tu parlais. Donc, c'est vrai que c'est pas évident, je pense, pour des personnes plus jeunes, de leur faire comprendre qu'il faut être vigilant, quoi.
Oui, oui, et ça, c'est quelque chose que moi, en tout cas, si on me pose la question, je le dis pas tout le temps, mais... En tout cas, c'est vrai qu'il y a des... Il faut savoir avoir un certain recul par rapport aux réseaux sociaux. Et ça, c'est quelque chose de très important pour les plus jeunes, notamment pour leur santé mentale, dans le sens où on est dans une époque où aujourd'hui, sur les réseaux, par exemple sur Instagram, on voit toujours ces profils un petit peu de la personne qui a notre âge, qui a la vie parfaite, la maison parfaite, le copain, la relation amoureuse parfaite, etc. Et ça donne envie. Le problème, c'est qu'après, lorsqu'on voit ça, on commence à...
À se dire que notre vie,
ouais,
c'est de la merde.
Qu'on a loupé le coche, quoi. Et ça crée des complexes. Maintenant, le plus important, c'est de savoir avoir ce recul, de se dire, ok, cette personne, elle montre réellement que ce qu'elle a envie de montrer,
bien sûr.
Derrière, il faut savoir que si ça se trouve, la photo qu'il a prise dans son jacuzzi, il l'a prise 6000 fois parce qu'il avait l'air trop gros. Si ça se trouve, d'ailleurs, Loïc en parlait la dernière fois. Loïc, c'est un photographe Instagrammeur que Pauline avait déjà interviewé.
Ouais,
et il m'expliquait par exemple qu'il avait pris une très belle photo avec son fils dans un hôtel. Sauf qu'il avait pris tellement de fois la photo que son fils commençait à s'énerver en disant mais papa, je veux plus être dans le jacuzzi. Et voilà, donc en fait, derrière l'image qu'il y a sur Instagram, il faut savoir se méfier de ça.
Toi, tu fais justement la détox un peu digitale, enfin, t'essayes d'avoir du recul ou avec ton métier, c'est strictement impossible.
Détox un peu digitale
C'est-à-dire que t'essayes de ne pas avoir ton téléphone scotché à ta main toute la journée et essayer de ne pas trop, enfin, certains jours, ne pas aller sur le web du tout. Il y a un gradient, tu vois, mais c'est des questions que tu te poses ou pas tellement?
Alors, c'est vrai que moi, je passe beaucoup, beaucoup de temps sur les écrans parce que c'est mon boulot, en fait. Maintenant, c'est vrai que il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, je suis tombé sur une notification sur mon téléphone qui me disait « Vous avez passé 5h42 en moyenne par jour sur votre écran. » Je me suis dit « c'est pour ça que j'ai mal aux yeux. » Du coup, ce que j'avais fait, c'est que j'ai désinstallé...
Et ça, c'est que ton téléphone, en plus.
C'est ça. Et du coup, j'ai désinstallé Twitter de mon téléphone parce que je sais que je passe énormément de temps dessus à scroller. Et je me dis « Ok, je vais y aller plus que sur ordinateur. » Donc oui, il y a un peu le droit à la déconnexion aussi. Et je fais attention à ça parce que après moi ça me retourne mon cycle de sommeil, etc.
Bien
donc
sûr.
J'ai aussi quelques mauvaises habitudes de ce point de vue-là, quoi, que je dois corriger.
Une des questions que je voulais te poser, c'est pas la plus facile, mais on a quand même l'impression que ton parcours est quand même assez parfait, justement, un peu comme l'Instagrammeur, tu sais, parfait. Et une question que j'aime bien poser, c'est par rapport au moment un peu plus difficile, si on a eu des échecs, alors ça peut être dans les études aussi, mais tu vois, peut-être plus dans l'histoire du rire jaune, est-ce qu'il y a eu des moments un peu difficiles dont tu pourrais me parler et qui t'ont appris des choses aussi?
Alors, j'ai pas eu de catastrophe, on va dire. On a plutôt eu un parcours assez fluide avec mon frère. Après, oui, il y a des erreurs que j'ai faites qui m'ont appris sur comment travailler et comment percevoir le travail sur Internet. Parce que c'est vrai qu'on peut prendre ça à la légère assez rapidement en se disant je m'amuse, en fait, c'est ça, je m'amuse beaucoup en faisant des vidéos. C'est ça, je m'amuse beaucoup, mais il faut savoir cadrer ça. Et on l'apprend en faisant des erreurs. Moi, par exemple, une première erreur que j'ai faite, c'était par exemple, j'étais cadreur pour, pas pour la chaîne cette fois-ci, mais pour une autre youtubeuse qui, bon, il fallait qu'on apparaisse dans les vidéos. Et je me rappelle que parce que j'étais pas été assez attentif, il y a eu un faux raccord en fait. C'était une scène où je devais faire un champ contre champ, c'est-à-dire que je devais filmer le dos d'une personne avec le dos d'une personne, puis après filmer de face par la suite. Dans ce champ contre champ, donc il y avait deux personnes. Une qui faisait, qui faisait office de la personne qui ouvrait la porte et celle qui était en dehors de la porte. Celle en dehors de la porte devait faire un tour sur soi-même et en fait, elle s'est appuyée sur la porte avec sa main droite.
D'accord.
Lorsque j'ai récupéré de l'autre côté, elle s'est appuyée avec la main gauche.
T'as pas fait gaffe.
J'ai pas fait gaffe. Donc, bon, on a bien eu fun sur le tournage et tout. Et puis après, on voit la vidéo et il y a le faux raccord. Oui, c'est ultra choquant. On voit que ça. Et dans les commentaires, c'était rempli de MDR 19.29. gros faux raccord, je sais pas quoi. Il y avait que ça dans les commentaires. Et même si c'était une erreur, bon, ça.
C'est pas dramatique non plus.
Bon, après, si, quand même. Moi, je considère ça comme dramatique. Mais bon, c'était important. Ça a ruiné la vidéo, entre guillemets, parce que cette personne avait passé du temps à écrire cette vidéo. Et tout ce qu'on retient de la vidéo, c'est MDR et un faux raccord.
Ouais, c'est ça qui est terrible.
Donc, c'était une erreur. De un. Bah, c'était de ma faute parce que j'ai pas été assez attentif et c'était d'autant plus marquant parce que c'était pas pour ma chaîne, c'était pour quelqu'un d'autre. Donc, j'avais une responsabilité envers cette personne et je l'ai pas respectée. Pour moi, quand je vois ça, j'ai considéré que. Moi, je suis assez sévère avec moi-même, je considère que je lui ai manqué de respect et ça m'avait affecté à ce moment-là. Et je me suis dit, ok, plus jamais je laisse passer ce genre de choses-là. Maintenant, à chaque fois, je triple check et je suis deux fois plus attentif maintenant sur ce que je fais. Ça, c'est une première leçon. Autre erreur que j'ai fait il y a pas longtemps d'ailleurs, c'était cette année où alors c'était pas entièrement de ma faute non plus. On va se dédouaner un peu. En gros, on fait une émission qui s'appelle le Show Jaune sur la chaîne où on réagit à des vidéos un peu virales sur Internet. Et donc du coup, quand on réagit à une vidéo, on a besoin de la vidéo en fait. On était tombés, alors accrochez-vous, on était tombés sur un coiffeur indien qui s'improvisait ostéopathe.
Pas mal.
En fait, quand on va en Inde et qu'on demande une coupe, on peut aussi demander un bonus pour se détendre où le coiffeur peut vous prendre votre cou et vous le craquer dans tous les sens. Et puis après, il vous fait les épaules, le dos, etc. Et c'était assez marrant à voir. Et même, à un moment, il lui a mis une claque. J'ai pas compris, mais... Donc, voilà, on a réagi à cette vidéo-là. On a écrit un texte en conséquence. Et du coup, sur une vidéo, il y a des moments où il lâche un regard extrêmement bizarre ou c'est hyper ambigu, on se dit qu'il va lui rouler une pelle ou quelque chose comme ça. Et en fait, on a fait tout le texte, on a filmé la vidéo, on envoie le tout en post-prod et là, on reçoit un message du monteur qui me dit « Henri, Kevin, j'ai un problème, la vidéo à laquelle vous avez réagi n'est plus en ligne. » Parce que je ne sais pas pourquoi celui qui a publié la vidéo a décidé de l'enlever.
Ah, merde.
Et c'est là où on s'est dit, oh, c'est foutu. C'est foutu, la vidéo. En plus, on n'avait pas publié depuis un moment, parce que des fois, bon, bah, l'agenda est chargé, et on est en rush. Et on se disait, ok, comment on fait pour la vidéo ce mois-ci? Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'il avait supprimé cette vidéo en spécifique. On avait décidé de rattraper ça en utilisant d'autres vidéos qu'il avait publiées, qui sont également des massages indiens. Le D'accord. mec est passionné par ça.
D'accord.
C'est des massages par les coiffeurs indiens.
Très bien.
Donc, j'ai dû me taper, 5 heures de vidéo d'un indien qui se fait masser par des coiffeurs. Et à chaque fois qu'on avait écrit une ligne du texte, je devais trouver l'équivalent dans une autre vidéo.
L'enfer.
Mais c'était un cauchemar parce que la vidéo initiale faisait 20 minutes et ça regroupait tout ce qu'on disait. Maintenant, pour retrouver le texte...
Ouais, l'équivalent de 20 minutes.
C'est ça. Donc là, c'était vraiment... Je devais me taper 5 heures pour chercher la ligne du texte qui allait correspondre à l'image.
En mode, tu bosses. La prépa, ça t'a servi, quoi.
Ah, mais là... Mais du coup, ce que j'ai retenu par rapport à ce format-là, c'est une fois qu'on a découvert une vidéo, on l'enregistre. Ouais. Et point. Il n'y a pas de faut plus rien laisser au hasard.
On double check et on enregistre 15 fois. C'est ça. C'est un peu mes règles aussi avec le podcast.
Donc c'était, ouais, mais ça vraiment, c'était une période de galère intense, quoi.
T'as des outils justement que tu utilises pour gagner du temps, des outils de productivité, ça peut être sur ton mobile, ça peut être sur ton ordinateur. À la fois, je peux imaginer que tu es hyper sollicité quand même, notamment via mail, etc. J'ai été assez étonnée, entre guillemets, tu m'as répondu quand même plutôt rapidement quand on a échangé. Enfin, t'es assez disponible, tu vois, je trouve, quand on te pose des questions. Ouais, comment est-ce que tu t'organises pour ça et est-ce que t'as des outils en particulier que tu pourrais nous recommander ?
Alors moi personnellement, avec mon frère en tout cas, on travaille sur Google Drive. Pour le coup, tous les textes sont sur un Google Drive et on travaille comme ça
donc
ensemble.
On peut peut-être hacker le Google Drive du rire jaune.
Bon, on va éviter s'il vous plaît. On est des honnêtes personnes, on n'a rien fait de mal. Donc on a un drive ensemble. On communique beaucoup par message avec mon frère, donc ça pas de problème. Maintenant en dehors, pour répondre du coup aux mails, généralement je les check tous les jours, le matin puis le soir. Alors je suis sollicité mais pas tant que ça, donc ça va, je m'en sors plutôt bien. Et aussi parce que j'ai plusieurs boîtes mail, j'ai une boîte mail perso, une boîte mail pro par rapport au rire jaune, et une boîte mail, bon bah, ça c'est ma boîte mail de l'école quoi, où j'ai tous mes
cours, etc.
Tous mes cours, etc. Ce qui me prend le plus de temps, c'est pas forcément les emails sur mon mail quoi, pro, parce que j'ai pas tant de messages que ça, donc c'est pour ça que j'ai pu te répondre rapidement, mais aussi parce que je le communique pas non plus des masses. Là, ce qui me prend le plus de temps de manière générale, c'est Instagram, ouais, parce que je reçois énormément de messages, et pas des messages pro, hein, juste des messages d'abonnés qui disent qu'ils aiment bien mon travail, qui disent que la dernière photo était cool, que bon, ils aiment bien tel contenu. Et de manière générale, je prends mon temps, et là aussi, c'est là où moi j'abuse de mon côté et que je devrais me gérer. Généralement, je le fais avant de me coucher et je réponds généralement de minuit à 2h du matin, en fait.
Oui, d'accord.
Je le fais parce que je considère que si jamais des personnes te font l'honneur, comment dire, de t'accorder de l'attention, il faut que ce soit réciproque. Donc il faut au moins lui dire merci, je sais pas, mettre un petit cœur ou un truc comme ça, mais leur dire ok, je t'ai lu, t'as pris le temps de m'écrire, je t'ai lu. Et je te réponds en conséquence, c'est
ça,
gentil,
etc. Je pense que c'est hyper important que tu partages ce message parce qu'il y a quand même, je pense, beaucoup de personnes qui... prennent pour acquis, si tu veux, entre guillemets, la chance qu'ils ont d'être suivis. Et c'est vrai que finalement, quand t'as des personnes qui donnent de l'amour, tout simplement.
Oui, mais parce que c'est...
C'est finalement ça aussi que t'as cherché quand t'as créé le rire jaune. Je peux imaginer que c'est hyper important pour eux que tu leur répondes.
Oui, mais c'est surtout parce qu'en fait, quand on a une communauté et qu'on crée une communauté, en fait, on peut pas prétendre créer une communauté si on n'en est pas, en fait. Il faut... prendre le temps de leur répondre pour dire ok les gars, on est ensemble, c'est pas moi le grand Manitou qui est au-dessus de tout et vous m'admirez. C'est vraiment pas qu'il y ait un système vertical, c'est vraiment que l'horizontal pour le coup. Moi je tiens vraiment ça à cœur, mais on s'éloigne de la question. Donc on parlait d'outils, Google Drive de manière générale, et sinon l'outil principal de planning, c'est un agenda. c'est physique. J'aime bien avoir un semainier en fait qui me permet
papier.
De planifier, oui c'est ça, qui me permet de planifier 7 jours à l'avance ce que je vais faire.
Avant je faisais
un truc marrant, je faisais sur 5 jours et j'appelais ça le plan quinquennal, mais
c'est pas mal.
Mais du coup là c'est plutôt 7 jours et le support papier pour le coup, il y a quelque chose de sexy avec le papier.
C'est vrai. Non, moi, je suis très papier aussi, mais ça m'intéresse en fait d'entrer dans ce genre de détails. Moi, j'ai un petit truc, c'est que tous les dimanches soirs, en gros, je replanifie un peu mes semaines. Je vérifie, tu vois, si je ne me suis pas trop engagée, si je n'ai pas des trucs en fait, qui me paraissent complètement infaisables. Et j'aime assez ce rituel, tu vois, de se dire, en fait, je suis honneur aussi de ma semaine et je refais un check pour être sûr que pouvoir respecter, comme tu dis, finalement, tous mes engagements.
C'est ça. Et à chaque fois que, oui, on me propose quelque chose, je suis obligé de regarder ce semainier en disant ok, là j'ai telle chose, ou alors là je suis libre, etc. Alors, ça paraît tout bête, mais avec une période où maintenant beaucoup de gens gèrent avec leur téléphone l'entièreté de leur activité, parfois ça marche pas bien. Moi par exemple, j'ai essayé de me planifier avec mon iPhone pour savoir quand est-ce que j'allais faire quoi, et une fois sur deux je me retrouvais à dire excuse-moi, j'ai oublié de faire ça, je suis obligé d'annuler, et après on me prend pour un tocard quoi. Donc le semainier, bon bye.
Je note, écoute, je note. Je vais peut-être m'y remettre. Moi, je suis sur Google Agenda, mais t'as raison, il y a trop de trucs dessus. Le semainier, c'est peut-être mieux. À la fin du podcast, j'aime bien parler de questions un petit peu plus personnelles. Alors, je te rassure, hein, c'est pas non plus salace, mais y a une question que j'aime bien poser. C'est est-ce que tu peux me décrire un peu ta journée type ? Alors, je peux imaginer qu'elle est pas. Enfin, il y a pas deux journées types parce que entre les cours, les machins. Mais si on devait essayer de résumer un peu, juste qu'on se projette un peu et qu'on comprenne, ça ressemble à quoi une journée de Henri ? Alors, tu te lèves à quelle heure le matin ?
Pas d'heure, honnêtement. Alors là, c'est la question.
Tu couches tard, mais tu te lèves tard.
C'est ça, moi je dis, ça fait un petit peu le souffle qui retombe, on est bien là, on avait réussi à bien professionnaliser le métier de youtubeur. Alors là...
Disons la vérité au monde, merci.
Alors, ce qui se passe, c'est que honnêtement, de manière générale, quand il n'y a pas de tournage, je me réveille à l'heure que je veux, sauf si j'ai des cours, évidemment. Mais sinon, de manière générale, je ne mets pas de pression par rapport aux heures de coucher ou aux heures de lever. Parce que je me dis que peu importe le moment auquel je me lève ou auquel je me couche, le travail à la fin de la journée sera fait en fait. Donc pas de journée type par rapport à la levée ou au coucher. Au lever ou au coucher. Après, de manière générale, c'est très souvent, j'essaye de varier les tâches dans la journée parce que ça me stimule. Si jamais je fais pendant 4 heures la même chose, encore, c'est ma limite, quoi. Donc ce que je fais, c'est que de manière générale, chaque jour, j'essaie de penser à comment écrire une vidéo, quelle blague je peux rajouter. Ou alors je fais des recherches sur un thème, sur est-ce qu'il n'y a pas un article de presse qui peut être marrant à détourner dans une blague ou une donnée marrante, quoi. Est-ce que j'en ai une en tête ? Non, pas spécialement en ce moment, mais...
T'as un carnet de notes où tu te notes un peu justement toutes tes idées qui te viennent et où sur le coup, tu vois, t'as pas forcément une thématique générale ?
J'écris sur mon ordi directement, ouais, sur mes notes, quoi. Mmh. Ou sur mon portable dès que je suis dehors et que je pense à quelque chose, je note. Ensuite, donc généralement, je passe un petit moment sur ça. Je réfléchis des fois à mes conférences pour savoir comment je pourrais la décliner, parce que j'ai une conférence générale, mais je peux me spécialiser dans un thème. Par exemple, si c'est pour des étudiants qu'on doit inspirer sur comment se lancer sur YouTube, il faut être beaucoup plus vague que si jamais je suis en face d'une équipe d'experts qui ont envie d'être plus pointus sur certains sujets. Et là, ça demande la préparation. Ensuite, je pense au projet futur. Sur ce que je vais faire après, parce que là j'ai deux activités principales. Après, j'essaie de penser à éventuellement quelque chose que j'aime bien faire, c'est le jeu vidéo. Donc j'essaie de développer un live sur Twitch. Donc j'y réfléchis et je me dis quel matériel je dois acheter, est-ce que je dois m'acheter un nouvel ordinateur, etc. Donc je réfléchis à ça, je consulte différentes pages web pour voir ça. Ensuite, du temps pour moi-même, pour m'amuser. Et généralement, ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. C'est autant il n'y a pas trop de régularité dans les heures de lever et de coucher, autant je sais que deux fois par semaine, il faut que je sois au taekwondo au club, parce que il y a des semaines comme ça où rien ne va au travail, où vraiment on tient pas notre agenda, on est stressé parce qu'on se dit si je fais pas ça maintenant, ça va être la cata dans quelques heures ou dans quelques jours. Ça permet d'avoir ce recul, de se dire ok, il y a au moins un endroit dans ma vie un domaine où on se pose et on s'amuse, on va voir du monde, parce que aussi c'est quelque chose qui est important quand on est youtubeur et même de manière générale quand on est entrepreneur. On passe beaucoup de temps à la maison tout seul.
Ouais, c'est sûr.
Mais il faut aller chercher. Nos amis sont pas toujours disponibles parce qu'on n'a pas les mêmes horaires. Généralement, quand on a des amis qui sont employés ou etc., eux, ils ont déjà planifié leur agenda sur des semaines.
Ouais, bien sûr.
Donc, alors que quand tu es entrepreneur, tu es un peu en mode tiens, j'ai du temps libre. Ça te dit, on va manger une glace ? Ah, non, tu vas pas, t'as escalade.
Il est 16h, c'est ça.
Bah non, t'as escalade. Donc, du coup, c'est bien d'avoir ce petit moment à soi dans la semaine où on se dit, je vais voir du monde. C'est pour ça que le taekwondo, ça me fait énormément de bien, surtout que c'est vraiment un sport où on se défoule bien, quoi. On frappe.
Oui, j'ai vu que ça avait l'air assez, assez intense.
C'est ça, donc il y a du temps pour moi. Et attends, qu'est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Donc,
bah, aussi tout le, j'imagine, les réseaux sociaux, donc le monitoring et puis la gestion. Alors, du community management, quoi.
Ouais, c'est ça, mais après ça, c'est pas quelque chose que je planifie pas un créneau par journée pour le faire. C'est vraiment tout le long de la journée, dès que j'ai un temps libre, parce que je suis tout le temps sur mon portable, on va pas se mentir. Je check un peu, j'essaie de répondre, mais ça, pour le coup, c'est pas non plus une corvée. Si j'ai pas envie de répondre, je réponds pas. C'est vraiment, si jamais je vois qu'il y a un message qui me touche, je réponds. Et ça se fait tout le long de la journée, pour le coup. Alors, est-ce que j'ai répondu à la question de la journée type? Parce que c'est un peu disséminé. Il n'y a pas de créneau. Il n'y a pas de créneau défini.
Non, mais c'est ça. Vraiment, je comprends qu'en fait, tu gardes ta liberté, mais c'est aussi ta manière, j'imagine, d'avoir ta liberté créative.
Ouais.
C'est que bah, tu as tes moments pour toi, tu fais ce que tu veux.
Oui, et après, il y a quelque chose qui est compliqué. Je viens d'oublier ça parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de YouTube, mais à côté, j'ai mes études. Donc, ouais,
c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé.
C'est ça. Donc, il faut aussi penser aux révisions pour ne pas finir en rattrapage, hein, parce que c'est pas agréable. Et donc, du coup, en dehors de la création, etc., bah, des fois, il faut faire un peu de finance, regarder un peu c'est quoi un besoin de fonds de roulement, etc.
C'est utile aussi. Je veux qu'on parle de Taekwondo avant de te laisser tranquille. T'en as parlé pas mal quand même tout au long du podcast.
Oui.
Est-ce que tu peux juste me réexpliquer en gros quelles sont les valeurs qui te plaisent dans le Taekwondo et aussi comment tu t'y es mis au final ?
Alors le Taekwondo, alors on va peut-être commencer par le fait de comment je m'y suis mis. En réalité, à chaque fois qu'on me pose la question, je sais pas trop.
Tu t'y es mis à quel âge ?
Je m'y suis mis assez tard, hein. Je m'y suis mis à 16 ans, je crois.
D'accord. Bon.
Mais en gros, alors que je me rappelle bien, il y avait deux facteurs. Premier facteur, il y avait Tekken 5, qui est un jeu de combat sur PS2. Et il y avait un combattant qui s'appelait Ho Rang, qui était un combattant de taekwondo, et le mec était juste hyper rapide, hyper cheaté. Quand tu te retrouvais face à lui, tu étais sûr que tu allais perdre. Donc j'aimais beaucoup ce personnage-là. Et je me disais, mais c'est vachement stylé ce qu'il fait comme coup de pied. C'est beau. C'est un sport qui est artistique aussi, le taekwondo, en dehors du sport de combat. On va dire que c'est... Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un sport, un art martial qui est très axé sur les coups de pied.
Mm.
Dans le sens où les coups de pied que vous voyez dans les films, là où ça saute, où ça fait des pirouettes et que la personne donne un coup de pied, bah, c'est généralement des coups de pied de taekwondo, en fait.
Mais c'est vrai que c'est presque comme une danse.
C'est ça. Et en fait, j'ai trouvé ça très beau. Et à côté, quand j'étais au lycée, je faisais pas mal de breakdance en autodidacte. J'aimais bien ça. Bon, je me suis un peu blessé la nuque parce que je me suis mis sur la tête. Mais... j'aimais bien ça et je me suis dit, bah écoute, le taekwondo, ça peut être quelque chose qui peut être marrant pour pallier au breakdance, dans le sens où, entre quelques figures de breakdance, on pourrait donner un coup de pied artistique, par exemple. Et c'est comme ça que c'est venu. J'ai fait le taekwondo pour l'aspect artistique du sport et pas le côté combat. Et en me lançant, en fait, je me suis plutôt développé dans le combat, en fait, bizarrement. Et pour le coup, c'est une autre vision de la chose. Et c'est comme ça que j'ai commencé le taekwondo. Maintenant, les valeurs que le taekwondo m'a inculquées me sont très chères parce que ça s'applique dans la vie de tous les jours. Par exemple, le respect, c'est quelque chose qui, au-delà du taekwondo, c'est plus une valeur de famille et on donne beaucoup d'importance à ça. Le respect, la persévérance et la combativité, c'est des choses qui reviennent dans la vie de tous les jours. Dans le sens où quand les moments sont durs, il faut savoir se dire « Ok, j'encaisse et puis on va plus loin, quitte à avoir quelques cheveux blancs hein, que tu vois là.
» Ça, c'est le manque de sommeil surtout.
Oh, c'est génétique surtout, je pense. Mais c'est des valeurs qui me sont chères et c'est des choses que j'ai envie de transmettre, que ce soit à mes amis. Par exemple, des fois, quand moi, je suis le premier à être là pour eux, quoi. Quand ils ont un souci de motivation, je suis là pour leur dire « Ok, c'est pas grave, ça va se passer, t'inquiète, moi aussi, je l'ai connu. » Il y a des moments qui sont difficiles. Et il faut savoir, on va dire, manger de la merde, entre guillemets. Alors, je sais pas si je peux dire ça sur ce podcast.
Tu peux
mais...
te dire.
Il faut savoir manger ça pendant un petit moment. Et au moment où on sera assez entraîné, où on sera prêt, en fait. C'est ces trois valeurs qui me sont très chères. Parce que jusqu'ici, ça m'a toujours servi et ça s'est toujours soldé par un succès.
Mmh. Écoute, merci pour ce partage. La dernière question que j'aime bien poser, c'est sur les livres qui t'ont marqué, que tu as peut-être recommandé autour de toi aussi, je sais pas.
Alors, je sais pas c'est quoi les... Alors, il faut savoir, j'ai fait une vidéo sur ne pas avoir de culture, donc ne vous attendez pas à avoir des livres très pointus.
Non, mais t'inquiète pas, ça peut être tout autant de la littérature que, franchement, mais un manga, tu vois. Moi, ça me plairait carrément que tu me dises quel est ton manga préféré.
Alors, le manga préféré, c'est assez simple, c'est assez mainstream, on va dire, pour ceux qui connaissent. Moi, c'est entre Dragon Ball ou One Piece.
D'accord.
C'est deux mangas que j'adore parce que One Piece, c'est une histoire très, très bien développée. Et Dragon Ball, c'est un manga d'enfance.
Ouais.
Maintenant, pour les livres, alors je les ai ramenés.
Je vois ça, je prends une petite photo.
Donc en gros.
Je les connais pas, en plus j'aime bien ça, pas les connaître.
Alors en gros, j'ai deux livres qui sont dans le registre de l'humour, plus ou moins. Alors le premier, ça s'appelle A Year in the Merde. Et en gros, c'est une année dans la merde. C'est un livre qui est écrit par Stephen Clark, qui est justement un Anglais qui raconte son parcours en France pendant un an. C'est-à-dire que cette personne a quand même vécu 10 ans en France. Et en fait, il faut se mettre dans sa peau et il explique comment il perçoit la culture française. Ça va de la bise aux relations dans le bureau.
Avec un humour british en plus.
C'est ça, c'est les relations au travail, comment acheter un appart en France, etc. Et il explique à quel point c'est galère pour un Anglais de s'adapter à tout ça. Par exemple, moi je trouve l'aspect le plus marrant à voir, c'est lorsqu'un Anglais... lorsqu'un étranger en tout cas expose sa vision des choses dans les bureaux en fait, parce que bon, il y a une culture de bureau dans chaque pays et je sais pas comment ça se passe en Angleterre, mais ce que j'ai ressenti par rapport à ça, c'est qu'en France on passe beaucoup de temps à prendre du café et à brasser un peu du vent, tu vois. Et alors que lui il est plus axé sur l'efficacité. D'accord. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, c'est pas la question, mais le livre est assez marrant pour le coup. Il parle aussi de comment séduire en tant qu'anglais en France.
Bref, très bien, ça.
Si jamais il y a des étrangers qui écoutent.
Écoute, je mettrai la note en tout cas dans les notes du podcast.
Et oui, donc du coup, ça c'est un livre qui est plutôt. Je crois qu'il est best-seller. Ça est sorti il y a un moment maintenant. Mm-hmm. Mais je vous le conseille de le prendre en anglais parce que ça retranscrit toute l'authenticité de l'auteur en fait, mm-hmm. à travers cette langue. Quoi. Deuxième livre qui cette fois-ci n'est pas un livre écrit, c'est une sorte de BD, on va dire. Alors c'est une dessinatrice qui vient de Brooklyn, je crois. Mm-hmm. Et alors elle a fait plusieurs séries de BD, mais celui-là ça s'appelle Herding Cats. Donc Herding Cats, la horde de cats, de chats, de cats, j'allais dire. Le franglais décidément, l'école de commerce, ça m'a pas réussi.
Ouais, mais... ouais, je suis aussi incorrigible là-dessus aussi. Ça fait bien de.
Mais du coup, donc en fait c'est une artiste qui dessine sa vie de tous les jours et qui en fait retranscrit des situations qui sont assez dans lesquelles on peut se reconnaître en fait. Ça va par exemple de l'obsession pour les chiens.
voilà. En tout cas, les images sont assez marrantes.
Oui, c'est pas spécialement bien dessiné, tu vois, mais ça retranscrit quelque chose.
Ah, mais un truc, ouais.
Ouais, c'est ça. Elle a son style et aussi il y a il y a des visions qu'elle partage qui sont très intéressantes. En fait, c'est une dessinatrice et les dessinateurs, on va pas se mentir, c'est pas un milieu qui est facile. En tant qu'artiste, on est quelque part les premiers entrepreneurs parce que pour le coup, c'est vraiment nous qui mettons notre travail dehors. Et elle explique son rapport, par exemple, aux difficultés qu'elle peut rencontrer par rapport à sa propre personne. Il y a une dimension, même si c'est marrant, il y a une dimension de développement personnel dans ce bouquin qui dit, ok, moi, en fait, il y a un souci, par exemple, lorsque l'on mixe notre travail et notre passion. Dans le sens où notre bonheur dépend énormément de notre créativité quelque part et même notre estime de soi. Et c'est quelque chose qui se retranscrit par exemple dans le dessin comme dans les vidéos YouTube. Lorsqu'on trouve pas de vidéo, on n'est pas bien nous. C'est pareil pour cette artiste, elle le montre dans cette BD. Et on peut retrouver par exemple des exemples qui, pour les entrepreneurs, elle parle de la solitude en tant qu'artiste. C'est quelque chose qui peut s'appliquer aux entrepreneurs aussi.
Complètement.
Et par exemple à la fin du bouquin, celui-là de Herding Cats, elle explique par exemple ses conseils pour devenir dessinateur en fait elle explique aux novices comment elle a commencé et comment elle perçoit les choses, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Par exemple, ne pas trop se mettre de pression au début, parce qu'on a un petit peu cette envie de bien faire, ce qui est une bonne chose, mais lorsque cette envie devient paralysante, ça devient un problème.
Ça, c'est sûr.
Et bon, en gros, je me rappelle, ça, c'était un livre que j'avais beaucoup aimé, que j'ai lu entre pendant des révisions de finances. Hein, c'est pour ça que j'étais en rattrapage. Mais... mais le bouquin, je l'ai bien aimé pour le coup, et je vous le conseille. C'est une BD. Et le premier, donc,
A Year in the Mind. Ça me donne envie d'inviter une illustratrice ou un illustrateur sur le podcast, là. Bon, bah, Henri, écoute, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant que je te laisse tranquille, une cause qui te tient à cœur, quelque chose dont on n'a pas parlé?
Alors, tout à l'heure, oui, j'ai un dernier message à faire passer. En fait, tout à l'heure, on a parlé, par exemple, du recul dans les réseaux sociaux. Je disais que les influenceurs contribuaient, par exemple, à la baisse d'estime de soi chez les jeunes, parce qu'on se compare très souvent aux influenceurs. Moi, il y a un problème, c'est que je contribue à cet effet-là, que certains jeunes de mon âge ou plus jeunes peuvent se comparer à moi en se disant « Oui, mais Henri, à tel âge, il a accompli telle chose ». À 23 ans, j'ai une chaîne YouTube qui marche bien, je donne des conférences, je suis dans une bonne école. Ça peut générer des complexes. Maintenant, ce que j'ai envie de faire passer aux gens, c'est de savoir être patient, Certes, à 23 ans, j'ai accompli certaines choses dont je suis fier, mais j'ai commencé quand j'avais 16 ans. Et ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que, ça c'est quelque chose que je vous faire passer, c'est on ne compare pas son chapitre 1 au chapitre 9 d'une autre personne.
Mmh, c'est génial. Génial c'est... comme phrase.
C'est voilà, c'est ça, c'est la vie, c'est pas une course, et on n'est pas là pour se comparer à H24. Tant que vous épanouissez dans ce que vous faisiez, tout va bien. C'est, tant que vous êtes heureux, que vos parents sont fiers de vous, etc., il n'y a pas de problème. Moi, si je fais quelque chose, ça ne va pas affecter votre vie de tous les jours. Donc voilà, c'est un message que je voulais faire passer.
Bah écoute, je suis bien contente de t'avoir posé cette question. Merci beaucoup Henri. Juste si on veut te retrouver dans le monde merveilleux du web, évidemment sur la chaîne du Rire Jaune. Sur les réseaux sociaux, c'est plutôt donc LinkedIn, mais au niveau plus professionnel.
Oui.
Ça. Et ensuite Instagram, c'est ça, surtout. Et puis Twitter aussi.
C'est ça, donc c'est @HenriRireJaune, H-E-N, Rire Jaune. Voilà.
Génial.
Donc, le petit jeu de mots.
Je mettrai ça dans les liens du podcast. Merci en tout cas Henri pour tout ton temps.
Ah, merci
puis,
pour l'accueil.
Bientôt.
À bientôt.
Hello à nouveau, et quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode, avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, c'est simple, allez directement sur le descriptif du podcast, sur l'appli de votre choix. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, me proposer de nouveaux invités peut-être, ou juste me faire un feedback, n'hésitez pas, j'adore ça les feedbacks. Donc foncez directement sur Twitter ou Instagram sous le pseudo Pelaigneau, @PLAIGNEAU. J'essaye de répondre quand on me parle, donc n'hésitez pas. Et comme à chaque fois, vraiment mille merci d'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas, si le podcast vous plaît, que vous appréciez tout ce travail, le plus simple pour m'aider, c'est tout simplement de mettre soit un petit mot doux, soit une note 5 étoiles sur iTunes ou de partager sur vos réseaux sociaux aussi. Ça donne le moral, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast, donc n'hésitez pas. Voilà, merci à tous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.